France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. C'est un moment charnière de cette campagne présidentielle américaine qui tient le monde en haleine. Le premier duel télévisé entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu mardi prochain. Et tout à l'heure, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump annoncera l'identité de sa candidate pour remplacer à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. La mort à 87 ans de ce petit bout de femme, icône du droit et du féminisme bien compris, complique la tâche du camp démocrate dont elle promouvait les idéaux au sein de la plus haute instance des institutions américaines. Voilà donc le président en exercice, dont elle dénonçait l'incurie malgré les usages, sur le point de nommer pour la troisième fois une personnalité conservatrice qui infléchira durablement la jurisprudence sur tous les sujets sociétaux. Voilà aussi le candidat qui utilise le privilège de sa fonction pour reprendre la main et la maîtrise du récit, son exercice favori, lui qui sait à merveille imposer les titres, le rythme du cycle médiatique et qui exclut, s'il est battu, un transfert apaisé du pouvoir. Que devient alors la marge de manœuvre de Joe Biden, qui doit satisfaire à la fois le centre et la gauche de son camp, tout en prouvant qu'il a l'énergie, malgré son âge, de résister à la brutalité de l'adversaire? Quel scénario avant et surtout après le 3 novembre, dans un système électoral si complexe, différent d'un État à l'autre, et dans un tel climat de division, de haine et de violence urbaine? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Anne Desine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. J'ai le grand plaisir d'accueillir Gérard Araud, qui fut ambassadeur de France à Washington et auparavant ambassadeur de France aux Nations Unies, il y a quelques années, et qui est devenu dans plusieurs médias un commentateur brillant. Et bien sûr, Denis Lacorne, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis, directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris. Gérard Araud, nous sommes très précisément à 38 jours de cette élection présidentielle. Et au moment où les sondages nationaux, alors on sait qu'aux États-Unis, il faut les prendre avec énormément de pincettes, mais au moment où ces sondages montrent un Donald Trump à la traîne, la pandémie, le cap des 200 000 morts vient d'être franchi, l'économie est en berne. Eh bien voilà que Trump bénéficie, il faut bien le dire, d'un nouveau coup de chance avec la mort de du juge Ginsburg, dont je crois on méconnaît chez nous le culte qui l'entoure. D'ailleurs, il suffisait de voir les queues pour lui rendre hommage à sa dépouille à la Cour suprême. Et donc, Donald Trump va pouvoir nommer un troisième juge. Je crois que ça ne s'est pratiquement jamais fait depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis.
En effet, Ruth Ginsburg était un personnage un peu de légende aux États-Unis. Il y a des t-shirts à son nom, ses initiales RBG étaient immédiatement reconnaissables, et elle était l'icône des minorités, des femmes et des gays. Elle en était le défenseur indéfectible, alors que physiquement, vous l'avez dit, c'était une frêle petite femme avec des gants de filoselle et une collerette de dentelle comme mon arrière-grand-mère. C'est en effet, pour Donald Trump, il faut bien dire, un incroyable coup de chance. Cela va faire deux décès et une démission qui lui permet, en quatre ans, de nommer trois membres de la Cour suprême. Et on disait aussi, en venant ici, il a aussi nommé, n'oublions pas, près de 50 juges d'appel, c'est-à-dire le quart du corps des juges d'appel aux États-Unis. Et naturellement, il a nommé des juges, c'est peu de dire conservateurs, hein. Très souvent, ce sont des juges qui ont été choisis uniquement pour leur idéologie, même pas pour leurs compétences, qui ont été nommés, qui ont 30, 40, 40 ans, et qui sont là pour des décennies. Donc c'est une prise de pouvoir conservatrice de l'appareil juridique américain. Et comme vous le savez, aux États-Unis, tout finit plus ou moins devant les tribunaux, et notamment les questions de société. C'est la Cour suprême qui a autorisé l'avortement en 1973 ou le mariage gay en 2015. Et donc la droite religieuse attachait beaucoup d'importance à ce combat pour les tribunaux. C'est une fois de plus Trump prouve à la droite religieuse, qui est puissante, qu'il est leur homme.
Un homme divorcé, convaincu d'agression sexuelle plus ou moins avérée, enfin quand il avait un avocat qui payait les dames pour qu'elles ne lui fassent pas de procès, qui vis-à-vis du fisc a fait preuve d'une certaine nébulosité, disons ça poliment, et donc c'est l'un des paradoxes de voir ce personnage-là qui est en train, en fait, de permettre à l'Amérique la plus conservatrice d'essayer de balayer la tendance progressiste qui, à partir des années 1960, avait fait évoluer les mœurs aux États-Unis.
Alors, tendance progressiste et aussi démographique, puisque depuis plusieurs années, les enfants qui naissent aux États-Unis ne sont plus en majorité des Blancs. Vous savez, j'ai fait cette remarque, la question que vous avez posée, je l'ai posée une fois à un pasteur protestant, et il m'a répondu avec un large sourire, mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, le roi David aussi était un pécheur.
Oui.
Et pourtant, il exécutait l'œuvre de Dieu.
Enfin, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Voilà, mais en tout cas, au fond, le génie politique de Trump, et il, évidemment, lui-même n'a aucun scrupule, aucune conviction religieuse. C'est étonnant d'ailleurs qu'il se présente comme l'homme de l'Amérique chrétienne, alors qu'il ne va pas à l'église le dimanche, et que Biden est au contraire un catholique assez pieux, et il y va tous les dimanches. Au fond, Trump a réalisé ce que nous, en termes français, l'alliance entre les Gilets jaunes et la manif pour tous. Et c'est ça sa force et son talent, c'est de maintenir l'unité des deux.
Et avec un aplomb jamais démenti, mercredi dernier, au cours d'une conférence de presse, le président en exercice des États-Unis disait, et je le cite, « La fraude que préparent les démocrates se terminera de toute façon devant la Cour suprême, et donc il est très important que nous ayons 6 juges sur 9 en gros, qui puisse faire basculer l'élection pour nous. Anne Desine, vous êtes en particulier experte pour tout ce qui concerne la Cour suprême, et c'est un champ juridique complexe. Tout à l'heure, on va donc connaître l'identité de la candidate. Donald Trump a déjà dit qu'il nommerait une femme, et il y en a l'une des deux, celle qui jusqu'à présent attire le plus d'attention dans la presse américaine, qui est absolument sidérante par rapport aux critères qui sont les nôtres en Europe et singulièrement en France. Donc cette dame qui s'appelle Amy Coney Barrett, expliquez-nous ça.
Alors, la Cour suprême est une institution politique. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France. Pour nous, il y a une division entre le droit qui est tout propre, la politique qui est toute sale.
Enfin, là, vous forcez le trait pour un samedi matin.
Allez. Oui. Les Américains ont toujours compris qu'il était inévitable que la Cour touche aux politiques. Je ne dis pas aux politiciens ou aux partisans. Parce que quand elle se prononce sur le droit de vote ou sur l'avortement qui pour moi est un arbre qui cache la forêt, j'espère qu'on pourra y revenir, elle touche au système politique. Et donc ce n'est pas absolument étonnant que le processus de nomination soit aussi politique, puisque c'est le président, l'élu, au suffrage indirect certes, mais un élu de la nation qui va désigner un candidat, et il est demandé au Sénat de faire son rôle de contrôle aussi, parce que quand on lui demande en théorie de ratifier le choix du président, c'est théoriquement un exercice de contre-pouvoir, de checks and balances.
Donc, et de vérification au demeurant de la compétence de la personne.
Oui, alors ça c'est fait en amont par le FBI, ouais. Il y a tout un processus de screening, bon, qui a déjà été fait pour les deux candidates dont on parle, dans la mesure où elles ont été élevées récemment au niveau de la cour d'appel. Donc elles sont passées devant le Sénat très récemment, par conséquent il y a eu à la fois la vérification de toutes les choses qui pourraient poser problème par le FBI, et il y a déjà eu l'espèce de dialogue durant les auditions par la commission judiciaire du Sénat, puisque c'est ainsi que cela se passe. Première étape, la commission judiciaire pose des questions, en l'occurrence à la candidate, qui répond. Alors pour les Républicains, c'est le bon moyen de montrer que la candidate est géniale et aussi de se faire mousser dans leur circonscription. Mmh. Et du côté des démocrates, c'est le moment d'attaquer la candidate en montrant qu'elle est dangereuse. Et
alors, ça a déjà été fait. Alors, qui sont-elles, les deux?
Alors, Barrett, que vous venez de mentionner...
Alors ça, c'est quand ça. Même s'agripper. Là.
Alors, bon, elle est assez photogénique, donc c'est bien. Elle est toute jeune, je ne sais plus si l'une a 42, l'autre 46.
Elle a 46.
Donc, voilà, donc elles sont là, effectivement, pour plusieurs décennies. Elle est mère de 7 enfants, dont 2 adoptés. Donc là, on est tout à fait dans la famille, le pro-vie, etc. Et on connaît la façon dont elle va juger, dans la mesure où elle a été juge d'appel. Donc on a soit ses opinions dissidentes si elle était dans la minorité, soit elle fait partie de la majorité et on voit le raisonnement. Et à cet égard, elle est très poussée par l'organisation qui prépare la sélection pour Trump, qui a littéralement sous-traité la sélection, la Federalist Society, qui est une institution très intéressante qui a été créée par la droite dans les années 80 pour contrebalancer la domination du judiciaire par les progressistes. Et c'est vrai qu'en 60, 70, 80, les progressistes étaient dominants.
Donc, néanmoins, cette dame fait partie d'une communauté charismatique.
Oui.
People of praise,
dont on dit, où l'on dit que les membres féminins étaient jusqu'à une époque très récente appelés des handmaids,
des servantes.
Donc, ce sont les romans de Margaret Atwood, Servante écarlate, qui a donné lieu à une série qui a eu énormément de succès, et surtout dans les auditions devant le comité du Sénat. Cette juge a expliqué que Dieu la guide dans ses choix.
Qu'elle fait la volonté de Dieu. Et donc, ça avait suscité effectivement des réactions très très vives des démocrates, expliquant qu'on ne se posait même pas la question de sa compétence, était-elle compétente, mais elle est juge, elle n'est pas là théoriquement pour faire la volonté de Dieu, mais pour appliquer le droit tel qu'il est, ou interpréter la Constitution telle qu'elle est. Donc ça avait déjà posé problème en cour d'appel. On peut penser qu'il y aura des échanges un petit peu rudes, en particulier avec Kamala Harris, qui siège à la commission judiciaire et qui est candidate vice-présidente avec Joe Biden. Et puis quelqu'un qui était candidate à la présidence durant les primaires et qui est très très bonne, qui est aussi sénatrice et membre de la commission judiciaire, qui est Amy Klobuchar, la sénatrice du... du Minnesota. Et donc, on va avoir ces échanges. Mais comme les républicains ont supprimé l'obstruction, le filibuster, les démocrates sont démunis. Ils vont pouvoir montrer le danger, ils vont pouvoir peut-être gagner du temps par des motions de procédure, etc. Mais grosso modo, si le camp républicain veut faire approuver l'une des deux, la seconde, c'est une cubaine-américaine.
Oui, alors, qui est aussi évidemment politiquement tout
très
à fait
utile, parce que la Floride... elle est aussi très anti-avortement, très pro-life, et en plus elle est soutenue alors par les Cubains américains, par les Floridiens, mais elle est très soutenue par la Federalist Society, cette institution dont je parlais à l'instant.
Un mot encore sur l'aspect très politique que vous soulignez dès le début de votre intervention et le rôle singulier du Chief Justice.
Oui.
Donc Roberts, qui lui est le stratège politique de l'évolution de cette cour.
Oui, j'ai fait un article dans le blog Droit et Société où j'essaie d'expliquer que lorsque fin juin nous nous sommes réjouis en disant « Ah, il y a des décisions progressistes, ah finalement le Chief Justice vote avec les progressistes », ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un stratège, c'est exactement le terme. C'est-à-dire qu'il voulait faire attention qu'il n'y ait pas trop de décisions à 5 voix, les conservateurs, contre les 4 progressistes. Mais c'est lui qui décide de l'ordre du jour, c'est lui qui décide d'accepter telle ou telle affaire et surtout c'est lui qui orchestre ce que un professeur de droit appelait le rôle judiciaire fantôme, c'est-à-dire des ordonnances qui passent sous le radar parce qu'il n'y a pas la procédure normale du certiorari, de l'acceptation du certiorari, des auditions, oral arguments.
Qui sont en public, hein. Moi j'ai eu l'occasion d'y assister.
Tout à fait, c'est fascinant.
Tout à fait spectaculaire.
C'est spectaculaire, c'est extrêmement intéressant à tout un tas de points de vue. Et là, il n'y a rien du tout. Et donc, le Chief Justice, il va pouvoir décider, par exemple, de reporter une audition qui aurait lieu le 10 novembre pour se prononcer sur l'inconstitutionnalité de la totalité de la loi santé, il va peut-être se dire qu'en termes de légitimité, de la Cour, c'est peut-être pas une bonne idée de trop attirer l'attention sur cette audition, parce que là, il risque de ne pas pouvoir la sauver. Or, si la loi Obamacare tombe, ça veut dire 50 millions de personnes qui sont plus couvertes, ceux qui ont des maladies chroniques, ce qu'on appelle pre-existing condition, et ça veut dire 18% de l'économie américaine qui s'effondre, tout le système de l'assurance médicale.
Et on voit dans quel état ce système a failli en pleine crise, évidemment.
Donc c'est un peu grave. Et il a un pouvoir considérable.
Denis Lacorne, je crois que vous avez accueilli la juge Ginsburg à deux reprises Sciences Po.
Absolument. En 91, un colloque qu'on avait fait sur les droits de l'homme en France et aux États-Unis. Elle nous a donné un très beau texte sur la défense de l'égalité. Et puis, elle est venue à la remise des diplômes à Sciences Po en 2009, à l'époque où Descoings était le directeur de Sciences Po. Mmh. Et elle a fait une très belle intervention aussi, qu'on a publiée à Sciences Po, sur la discrimination positive. Donc, elle venait régulièrement en France, même si son pays étranger privilégié était la Suède. Elle a appris le suédois en un an et elle a passé un an en Suède.
Et c'est là où, d'après ce que j'ai lu de sa biographie, elle a vu un pays mettre en place les droits des femmes de façon extrêmement concrète, ce qui l'a orienté par la suite dans son parcours.
Et elle a toujours dit, ma défense n'est pas la défense des femmes, c'est la défense du principe d'égalité. Lequel principe est affirmé à la Déclaration d'indépendance, mais n'est pas mentionné dans la Constitution américaine jusqu'au 14e amendement, après la guerre de sécession, qui enfin mentionne une égalité. Mais c'est elle qui va théoriser, développer le principe d'égalité dans toute sa jurisprudence.
On va donc voir tout à l'heure Donald Trump annoncer sa candidate. À partir du moment où le Parti républicain a 3 voix d'avance au Congrès, plus la voix du vice-président Mike Pence qui s'y ajoutera. On peut donc convenir que cette dame sera effectivement confirmée. C'est quand même la première fois. Il y a eu plusieurs nominations, je crois, en cours de campagne électorale, mais c'est la première fois qu'une nomination a lieu aussi près
de l'élection
proprement dite. Donc, avec un argumentaire de Mitch McConnell, qui est donc le patron des Républicains au Sénat, qui a empêché Obama, président,
de nommer Garland 9 mois avant les élections.
Après la mort
en disant pas question de nommer pour un cas président en fin de parcours, on n'a pas le droit de nommer un juge parce qu'il y aura bientôt un autre président. Et après avoir affirmé ce principe, il a été violé de façon incroyablement hypocrite par les Républicains qui ont dit «
Et là, aujourd'hui, il dit l'inverse.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a un risque juridique à terme dans cette espèce d'offensive et d'accélération du rythme Avant de parler du risque politique, mais est-ce qu'il y a un risque au niveau des institutions?
Oui, alors, d'abord, il va y avoir la contre-réaction des démocrates qui risque d'être énorme, ce que les démocrates appellent entre eux l'option nucléaire. Mais c'est vrai que le risque politique, c'est que si vous avez une Cour suprême où la majorité conservatrice est 6 juges contre 3 pour 20 ans ou plus, il y aura un tel décalage idéologique entre la Cour et que pensent les Américains, le pays réel, si vous voulez, que cette Cour va perdre sa légitimité. Et alors, quelle est la réponse des démocrates, qui n'est pas surprenante, c'était celle de Roosevelt, on va bourrer la cour, on va faire le court packing. Si c'est comme ça, eh bien nous, si nous l'emportons au Sénat et à la Chambre des représentants, on va aussi rajouter des juges, comme l'avait proposé Roosevelt. Alors Roosevelt, ça n'avait pas abouti parce que, par chance, l'un des 9 juges avait soudainement voté pour les grandes lois du New Deal. Mais c'est vrai que systématiquement, les lois importante du New Deal était bloquée par les juges jusqu'à ce qu'un juge cède, et à ce moment-là, ça a résolu le problème. Et là, donc, la menace, c'est court packing, on va rajouter 2 juges, puisque c'est comme ça, et autre élément de l'option nucléaire, on va aussi, puisque vous embêtez et vous trahissez vos principes, on va accélérer la possibilité pour Porto Rico de devenir un État. ça fera deux sénateurs de plus pour nous. Et au District de Columbia va aussi devenir un État, ça fera deux sénateurs, ça fera quatre sénateurs dans le camp démocrate.
Mais pour ça, il faut que les démocrates gagnent
le Sénat.
Le Sénat et la Chambre des représentants, et il faut abolir, c'est vrai, la flibus, le filibuster.
Mais
s'ils ont le Sénat et la Chambre des représentants, ça suffit pour voter l'État. C'est pas un amendement de la Constitution, c'est quelque chose d'assez simple.
Et donc ça devient une majorité politique exprimant...
Oui, exactement. Donc ça fait partie de l'option nucléaire, si les démocrates arrivent à faire ça. Évidemment, il y a plein d'incertitudes, c'est compliqué, mais c'est pas impossible que ça se... Alors, il y a d'autres projets de réforme, par exemple, limiter l'âge des juges. Dire un juge peut être présent 18 ans et pas plus. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait amender la Constitution.
Parce que là, ils sont donc juges à vie.
Mais si j'aimerais bien ajouter juste une chose sur ce que dit Denis, parce que Joe Biden fait très attention d'abord à ne pas mentionner le terme « court packing », qui a une image très très négative, parce que ça donne l'idée que ce sont les démocrates qui manipulent la Cour. Donc lui laisse les autres dire qu'effectivement, si les démocrates étaient majoritaires en détenant les trois branches, ils feraient peut-être sous toutes ces choses des créations, etc. Parce que c'est dangereux, ça risque de retourner l'opinion contre les démocrates et de permettre aux républicains de galvaniser les leurs pour empêcher ces méchants démocrates de vouloir toutes ces choses épouvantables.
Mais c'est ce que dit Pelosi quand même.
Biden. Biden est très prudent.
Donc Gérard Haraud, on voit la prudence évidemment de Biden. On voit aussi dans le camp démocrate un peu d'embarras quand même. Quand Donald Trump dit... une transition pacifique, oh là là, attendons, de toute façon ce sera la continuité, de toute façon les démocrates vont tricher, puis vous savez, le vote populaire, on sait bien ce que c'est. On a vu quand même, là, certains républicains, à commencer par O'Connell, qui est quand même leur patron au Sénat, temporiser et dire, mais non, tout se passera très bien, comme ça se passe dans notre pays, dans cette grande démocratie, depuis la fin du XVIIIe siècle. Comment expliquer ce rapport entre Donald Trump et un parti très ancien, dont Trump a réussi, en 4 ans, à bouleverser à la fois... les dogmes, le programme, la personnalité, la morale publique, d'une certaine manière.
Non, tout à fait. Je dis souvent qu'il a trumpifié le Parti républicain. Mais avant même d'en venir là, moi je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas de court packing, parce que les Américains ont un attachement tellement viscéral à leurs institutions, à la Constitution, qu'on n'y touche pas. C'est vraiment fondamental chez eux. Franchement, la Cour suprême, c'est 9 membres, c'est depuis 1869. Alors, essayez d'imaginer...
10 membres, le nombre de juges a évolué.
Avant,
jusqu'à 1869.
La Constitution ne le prévoit pas.
Il y a 9 depuis... Les Américains n'y toucheront pas. Deuxièmement, n'oublions pas non plus que ces juges, une fois qu'ils sont à la Cour suprême, ils ont devant eux l'éternité, et en réalité, ils évoluent. Et on voit vraiment souvent des juges qui peu à peu changent de position, qui essayent d'avoir une approche que j'appellerais plutôt juridique plutôt que politique. Donc, alors
sur
la politique. Alors sur la politique, c'est très très clair. Je me rappelle, j'avais posé la question à des spécialistes de la droite américaine qui m'avaient dit, au fond, la force de Trump, c'est d'être beaucoup plus proche de l'électeur républicain de base que ne l'est la direction républicaine. La direction républicaine conservatrice sur le thème, le libre-échange c'est important, le déficit budgétaire c'est une horreur. Eh bien, l'électeur républicain de base, il s'en moque éperdument du libre-échange. Il voit simplement que son usine ferme et que l'usine part en Chine. Alors, le déficit budgétaire également. Donc lui, il est allé, d'une certaine manière, il est allé au-dessus de la tête de l'élite républicaine pour parler directement avec ses électeurs. Et la conséquence en a été que les électeurs ont fait comprendre à leurs élus que si ces élus ne suivaient pas Trump, ils étaient finis. Et donc ceux qui ont essayé de s'opposer à Trump au sein du Parti républicain, soit sont partis d'eux-mêmes, soit ont été balayés aux primaires.
Et c'est tout le problème des quelques sénateurs et sénatrices républicaines qui sont en position délicate pour le prochain scrutin, de savoir quelle marge, quelle distanciation, si j'ose dire, quel geste barrière vis-à-vis de Donald Trump.
Alors, il y a aussi une évolution de long terme qui fait que, pendant très longtemps, on a pu gouverner les États-Unis parce qu'il y avait des démocrates plus conservateurs que certains républicains.
Oui.
Or, en réalité, depuis maintenant plusieurs décennies, les deux partis se sont séparés en vraiment un parti conservateur et un parti progressiste. Mais vous avez une nouvelle droite américaine qui arrive, qui maintenant s'est installée, et que Trump soit réélu ou pas, elle sera là, qui est une droite nationaliste, identitaire, protectionniste et néo-isolationniste. Qui d'ailleurs, là je m'éloigne un petit peu, mais qui ressemble aussi à l'évolution des droites européennes. C'est vraiment, on a l'impression d'une nouvelle droite américaine que Trump a su, à la fois, a su galvaniser.
Qu'il a su comprendre, galvaniser. Et ce qui est étrange néanmoins, c'est que voilà un président dont le taux de popularité est resté l'un des plus bas de l'histoire présidentielle américaine. Il n'a jamais dépassé, me semble-t-il, les 45-47%. Mais bien évidemment, ce pourcentage-là, c'est ce socle galvanisé qui reste extraordinairement, confiant et extraordinairement approbateur, malgré une gestion catastrophique de la pandémie, malgré les difficultés économiques. Et expliquez-nous, Gérard Araud, comment et pourquoi Donald Trump n'a jamais essayé d'élargir ce socle, d'en appeler à l'unité nationale face au coronavirus.
Non, sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Si vous regardez les courbes d'approbation des présidents, en général, ils oscillent, et d'ailleurs de manière assez forte. Vous regardez la courbe de popularité de Donald Trump, elle est quasiment stable tout au long de la présidence. C'est-à-dire, quoi qu'il ait fait, les scandales, le coronavirus, la mort de George Floyd, ses électeurs le suivront jusqu'en enfer. D'ailleurs, il avait dit, si j'assassinais quelqu'un sur la cinquième année, il voterait quand même pour moi.
Oui.
Donc il a une base qui ira jusqu'au bout. Vous aviez raison, entre 35% des Américains. Alors, pourquoi il n'a pas élargi sa base? Je dirais parce qu'il en est incapable lui-même. C'est-à-dire que la personne de Trump, est, on l'a bien vu après la mort de George Floyd. La mort de George Floyd,
qui est ce noir de 37 ans qui a été asphyxié par un policier qui a maintenu son genou pendant
10 minutes.
Pratiquement 10 minutes et qui a enfin une mort de plus. Il y en a eu d'autres, hélas, depuis. Il y a eu aussi des morts du côté des policiers. Mais c'est ce moment-là, la mort de Floyd, qui véritablement a embrasé l'Amérique urbaine, bien au-delà des Black Lives.
C'était embrasé, mais c'est aussi, ça a été un de ces moments que l'histoire américaine connaît, où le peuple américain se regarde et dit, il y a vraiment un problème, nous ne sommes pas dignes du rêve américain. Vous savez, c'est ces moments, ils ne remettent pas en cause le rêve américain, mais ils disent à un moment, bon, là, ça ne marche plus. Et donc, c'était un moment d'émotion, même chez les républicains, qui appelait aux paroles d'unité, de réconciliation. Vous savez, ces platitudes sentimentales qu'adorent les Américains. Eh bien, Trump, au contraire, a jeté de l'huile sur le feu, il a clivé, il s'est de nouveau enfermé dans son camp, qui est quand même le camp de la droite, avec franchement un arrière-plan qui est raciste, hein, il faut bien dire. Donc,
pour rebondir sur les propos de Gérard Araud, la nouvelle droite de Trump, oui et non. C'est-à-dire que un gros élément de la droite des Trumpistes, c'est quand même les évangéliques. Et c'est-à-dire la conquête du Sud par les républicains qui ont pris la place des démocrates depuis le vote des grandes lois des droits civils.
Les donc évangéliques étant
Nixon,
donc
ça ressemble à Reagan, c'est Jerry Falwell, et c'est le camp des évangéliques qui aujourd'hui votent comme un seul homme, si je puis dire, pour Trump. 81% des évangéliques votent pour Trump. Et les évangéliques, c'est près de 50% de l'électorat républicain. Donc ça, c'est fondamental.
Rappelez-nous, Denis, les évangéliques, c'est donc une branche...
C'est une branche
des églises protestantes qui sont très nombreuses aux États-Unis.
Oui, il y a des milliers, mais c'est la branche sur les... C'est le Southern Baptist Convention. Par la taille, c'est la première église américaine, la Fédération des églises baptistes du Sud, blanche. Parce qu'il y a aussi des baptistes noirs qui, eux, votent différemment et sont très, très différents. Donc c'est le Southern Baptist Convention. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a des fondamentalistes comme Jerry Falwell, père, qui eux
projettent parce que le
la
fils
seconde
est,
venue
est,
de Christ sur terre.
Le fils est dans un scandale sexuel.
Oui, le fils, il est pris dans une pantalonnade et puis un problème de voyeurisme avec sa femme et un garçon de piscine. Donc ça, c'est. Mais c'est très bien, je veux dire, dans une logique évangélique, c'est pour ça qu'ils aiment Trump. Il y a toujours la rédemption. Et plus vous péchez, plus la rédemption sera forte et plus le principe de born again Christian va vous transformer. Donc c'est pas un problème. On n'est pas dans le calvinisme, là, il faut bien comprendre. Bon,
Trump avait un peu perdu les évangéliques à cause de la gestion du coronavirus. Et son taux d'approbation était baissé à 60. Mais il a tout de suite trouvé la solution, l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis.
Bien sûr, et ça c'est depuis l'époque en Israël.
Dans l'ambassade à Jérusalem.
Ça c'était fait avant, mais là récemment il avait perdu. Mais les évangéliques, oui, ce sont essentiellement des fondamentalistes. Disons, dans le protestantisme, il y a les normaux entre guillemets et les évangéliques. Et les évangéliques suivent Trump. Oui, vous avez raison, jusqu'en enfer.
Quoi qu'il Alors fasse. Venons-en, Denis Lacorne, au scrutin du 3 novembre, parce que. On est toujours surpris et nombre d'entre nous ont été surpris il y a 4 ans et demi quand on a compris qu'Hillary Clinton avait 2 millions de voix d'avance.
3 millions.
Et que néanmoins, elle avait perdu. Donc, le 3 novembre prochain, seront en jeu le poste, enfin la Maison-Blanche, mais aussi nombre de postes électifs et d'un État américain à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes pour le vote.
Pour le vote, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire là se pose le problème du... c'est un peu la conséquence politique de la maladie, du virus, du Covid. Parce que aux États-Unis, d'abord, on vote le mardi. C'est un jour de travail. Lorsqu'on est démocrate, c'est-à-dire souvent une minorité ethnique qui vivent dans des quartiers très denses, des résidences très denses, voter, c'est très pénible. Ça peut être jusqu'à 9 heures de queue. Et là, avec le Covid, c'est pas très, très souhaitable. Et puis, vous entrez dans un hall d'école ou dans un stade qui est fermé. Donc, les démocrates vont, plus que les républicains, qui, eux, sont encouragés à faire l'inverse, vont voter par correspondance. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a une espèce de poème à la Borges. Le vote par correspondance, c'est quoi aux États-Unis? Dans certains États, on a le droit de voter dès maintenant ou dès la semaine prochaine. Dans d'autres États, il faut voter, mais il faut la permission, il faut demander un bulletin de vote, ça s'appelle des absentee ballots. Dans d'autres, vous recevez chez vous par poste le bulletin de vote, mais ensuite, il faut le mettre dans une enveloppe, quelquefois dans une double enveloppe, avec une signature. Il faudra ensuite, au moment du dépouillement, à la fois vérifier la signature avec votre signature sur le registre électoral, puis compter les votes, le cachet de la poste faisant foi, c'est-à-dire si le bulletin de vote est envoyé avant le 3 novembre, ça va. Dans certains États, le 3 novembre, ça va aussi. En Californie, s'il est envoyé le 3 novembre et reçu le 20 novembre, c'est bon. Alors que dans d'autres États, le bulletin doit être reçu au minimum le 3 novembre ou le 4 et pas plus tard. Donc
C'est un énorme bazar.
Et le rêve, évidemment, des avocats et des cours locales qui vont dire que dans tel et tel cas, on a violé les règles de tel et tel État.
Et il y a déjà des procès, d'ailleurs,
Il y a plus de 400 procès qui existent déjà, qui peuvent entrer sur des choses absolument minutieuses. Dans certains États, il ne faut pas simplement mettre le bulletin de vote dans une enveloppe, il faut une double enveloppe pour qu'on ne puisse pas lire ce que vous auriez pu voter. Et si la double enveloppe n'est pas là, on écarte le bulletin et on peut prévoir que 500 000 ou plus votes par correspondance seront éliminés comme étant pas de la triche, la fraude est très très rare, mais comme ne correspondant pas aux critères prévus par tel et tel et tel État.
En revanche, Donald Trump lui a déjà dit, le vote par correspondance, ce sera la fraude, même s'il a pris soin de nommer à la tête de ce qu'on appellerait le ministère des Postes, un monsieur qui répond au doux nom de Joy, ce qui ne s'invente pas, de joie, et qui est l'un de ses gros soutiens financiers, mais qui apparemment, quand il a été interrogé pour être validé, ne connaissait pas le prix du timbre-poste.
Probablement a-t-il pour ralentir le système de la poste. Donc la poste marche moins bien, ce qui va aussi créer des problèmes.
Ça me ramène à cette question nous trouble toujours, parce que nous sommes habitués, nous, au suffrage universel direct. Mais donc ça veut dire que le vote populaire, Trump a déjà dit, il l'a redit mercredi dernier, le vote populaire, c'est toujours de la triche. Et d'ailleurs, vous savez ce que j'en pense, sous-entendu, ouais. je m'assieds dessus. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est le vote des grands électeurs. Expliquez-nous ça.
Alors, les grands électeurs, c'est les votes du...
Chaque État a droit à un nombre de grands électeurs.
Qui est égal au nombre de représentants de chaque district, oui, et de sénateurs. Donc les États ont trois grands électeurs, les tout petits États, oui, et les autres peuvent avoir 20, 40 électeurs en fonction de la taille. Donc tout dépend du collège électoral. Et le collège électoral, il faut comprendre cet archaïsme prodigieux dans le système politique américain. Et en général, on le comprend mal. C'est-à-dire que trop souvent, on dit que le collège électoral, c'est pour favoriser les petits États ou les endroits où il y a peu de population. Oui, mais la raison fondamentale pour créer ce collège électoral, Madison le dit, se pose la question lorsqu'on crée un système présidentiel, est-ce qu'on va faire des élections présidentielles directes ou non ? Madison pense que c'est une bonne idée.
Donc là, on est en quelle année en
1787, dans les débats constituants. D'accord. Et puis finalement, il y aura ce que j'appelle un compromis scélérat, c'est-à-dire que c'est un compromis géographique entre les États du Nord qui sont abolitionnistes et les États du Sud qui sont esclavagistes. Et si on compte uniquement les électeurs libres, ça veut dire que le Nord va dominer le Sud pour très longtemps et peut-être abolir l'esclavage plus vite que prévu. Si par contre, comme concession au Sud, on décide de compter parce que le nombre des représentants est proportionnel à la population, si on compte les électeurs libres et on ajoute à ça les esclaves qui ne votent pas, mais qu'on ajoute dans la population, ça va soudainement équilibrer...
Alors, le fameux compromis des 3/5.
Ça va équilibrer le Nord et le Sud, et du coup, le Sud ne va pas être bouffé par un Nord anti-esclavagiste. Pas donner trop de pouvoir au Sud, on va compter ces non-électeurs esclaves comme 3/5 d'un homme et pas comme un seul homme, pour limiter un peu le poids du Sud. Donc il y a un énorme équilibre géographique qui est délirant et qui est lié à l'esclavage.
Mais avec, depuis, un déséquilibre démographique, oui, qui s'accentue entre les États ruraux et, aussi, bien évidemment, l'Amérique, voilà, urbaine. Je disais quelque part, pardon, qu'au Sénat, la minorité démocrate, les sénateurs démocrates sont minoritaires. Cette minorité représente à peu près 15 millions d'Américains de plus
qui ont voté
que la majorité républicaine, qui, elle, confirmera, en l'occurrence, à la Cour suprême, le choix, oui, de Trump. Donc, ça veut dire qu'il y a, je crois, un recensement qui est en cours, c'est tous les 10 ans.
Manipulations.
Et Trump a essayé de le suspendre.
Oui, il a voulu agir. Les résidents qui ne sont pas citoyens.
Mais il a voulu ajouter une question sur la citoyenneté. Mais juste deux mots quand même pour résumer. Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est le résultat des négociations au moment de l'adoption de la Constitution. Les petits États ont dit, nous ne voulons pas de suffrage universel, et c'est la raison pour laquelle il y a ce suffrage via le collège électoral. C'est ça la grande idée. Et ils ont dit, nous voulons une chambre qui représente le peuple, la Chambre des représentants, et une autre qui représente le principe du fédéralisme. Et le principe du fédéralisme, c'est moi, tout petit État, j'ai droit à deux sénateurs, comme la Californie qui n'existait pas à l'époque.
Alors, en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit les États clés, les battleground states, les États de la bataille finale, oui, c'est pas les petits États, c'est des États de taille moyenne comme Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Oui. Et là, c'est lié à un autre paradoxe
on est
du
en
système
gros,
américain.
Si on imagine la carte, on est dans le milieu.
Oui, mais qui est prévu à un autre paradoxe du système américain, qui est le winner take all. La règle du winner take all, qui n'est pas inscrite dans la Constitution.
Donc le gagnant
Mais le gagnant, même si vous gagnez
lot.
Avec deux voix dans un État, vous avez tous les grands électeurs. Ou si vous gagnez avec 100 000 voix, vous avez aussi tous les grands électeurs. Donc ça favorise les États de taille intermédiaire, d'où le paradoxe de cette élection. Pourrait très bien imaginer un système où on abolit le winner-take-all système, le système de le gagnant emporte la mise au niveau de l'État. Ça fait partie des réformes possibles.
Oui, sauf que si vous êtes la Pennsylvanie, vous ne voulez pas renoncer
à ça.
Évidemment. Tout le monde parle de vous. Et donc, vous perdez ce rôle crucial.
Et donc cette réforme n'aura jamais lieu. Voilà. C'est un des problèmes.
Gérard Araud, on sait aussi à quel point cette campagne électorale étrange, rendue virtuelle, en tout cas côté démocrate, où ils sont beaucoup plus prudents que le républicain, rendue virtuelle par la pandémie, se déroule aussi dans un climat de violence urbaine. Et aujourd'hui, samedi, en particulier à Portland, dans l'Oregon, qui pour des raisons historiques, nous n'aurons pas le temps d'y revenir ce matin, mais est un état où l'affrontement entre les partisans, disons les antiracistes, au-delà de Black Lives Matter, et les milices d'extrême droite, les Antifa, etc., que Trump trouve quand même malgré tout très sympathiques, c'est dans ce climat de violence urbaine que se déroule cette campagne bizarre.
Moi, je parlerai de violence et bien au-delà de la violence urbaine. Les États-Unis sont dans une situation de guerre civile virtuelle quasiment depuis le jour de l'élection de Donald Trump. Vous avez une grande partie du pays, et y compris les élites, et je dirais les élites démocrates et aussi républicaines d'ailleurs, les élites traditionnelles, qui n'ont pas admis l'élection de Donald Trump. Et vivre aux États-Unis, comme je l'ai fait jusqu'à cette année, vous avez en permanence ces discours d'une extrême violence dans les dîners en ville, dans les rencontres amicales, contre Donald Trump. Moi, j'ai vu des gens s'excuser auprès de moi après l'élection de Trump en me disant « ce n'est pas l'Amérique ». Il y a, et lui, de son côté, Trump a évidemment rendu coup pour coup. Et donc, vous avez eu une vie politique totalement hystérisée, et cela est autour de la personne de Donald Trump, et vous avez deux Amériques aujourd'hui qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent pas, et qui sont dans leur tranchée.
Mais donc, ça veut dire que, quel que soit le gagnant,
Totalement.
Oui. Une partie de l'Amérique considérera que cette élection a été une fraude. C'est d'ailleurs ce que Trump lui-même a annoncé il y a déjà plusieurs semaines en disant « ce sera la plus grande fraude de l'histoire américaine, sous-entendu si je perds, si je gagne, évidemment,
mais vous avez
évidemment
le...
non ».
Vous avez un des fils qui vient de déclarer d'appeler les volontaires à se réunir pour empêcher les inévitables fraudes commises par les démocrates.
Et il y a déjà eu des intimidations.
Trump a nommé 50 000 scrutateurs dans 15 États.
Parce qu'en plus, il y a une décision de justice.
Ne parlez pas tous à la fois, parce que sinon...
Il y avait une décision de justice qui a pris fin là, qui jusqu'ici interdisait au Parti républicain d'envoyer des scrutateurs dans les bureaux de vote en raison d'un historique d'intimidation des électeurs. Et c'était pour une certaine durée. La durée a pris fin cette année. C'est-à-dire que le Parti républicain peut envoyer des troupes. Des troupes, malheureusement, ça peut être des anciens shérifs, ça peut être des anciens policiers, c'est-à-dire des gens qui vont faire peur aux minorités, aux Noirs, qui n'aiment pas beaucoup rencontrer la police. Et il y a déjà eu des exemples en Pennsylvanie, puisque effectivement la Pennsylvanie a commencé le vote anticipé depuis quelques jours. Puisque les malheureux électeurs doivent attendre pendant très très longtemps, séparés par un mètre, en faisant le tour du pâté de maison, etc., et bien pendant qu'ils attendent, il y a comme par hasard des blancs,
des gros bras,
des gros bras qui patrouillent, et certains ont quitté la queue. Les listes d'attente.
Il y a une tradition aux États-Unis qui s'appelle la suppression de l'électeur. Les républicains ont une tradition de décourager le vote des minorités. Par exemple, par le nombre de bureaux de vote. Voilà. Vous avez très peu de bureaux de vote dans les quartiers dont vous disiez en effet qu'ils étaient vraiment très peuplés. Donc les gens doivent attendre 6-8 heures avant de voter. Ou alors vous avez des bureaux de vote qui sont dans des quartiers blancs. Donc pour les minorités, avec tout ce que cela porte avec soi, il y a... Ou alors, si vous avez été en prison, vous ne pouvez plus voter. Et ça, c'est le cas de la Floride, où 8% du corps électoral ne peut pas voter parce qu'ils sont allés en prison. Alors ensuite, il y a
ceux qui sont sortis de prison...
Ils sont sortis de prison.
Qui ont purgé leur peine.
Et Michael Bloomberg, donc candidat malheureux à la nomination démocrate, a allongé 100 millions de dollars pour... aider.
Parce que l'histoire est extrêmement intéressante. Oui. Parce que dans un premier temps, ceux qui n'avaient pas pu, qui avaient purgé leur peine ne pouvaient pas voter.
Plus d'un million.
7 à 8% du corps électoral. Ensuite, il y a eu un référendum disant non, ils vont pouvoir voter. Du coup, les républicains ont inventé une nouvelle règle en disant ils pourront voter le jour où ils auront payé toutes leurs amendes et autres frais, et les frais judiciaires. Vous voyez, c'était une nouvelle manière d'empêcher ces gens de voter. Et c'est donc pour ça que Bloomberg...
Et là, la Cour suprême est intervenue. Parce que la première juridiction a dit, on ne peut pas faire ça.
La Cour suprême de Floride.
La première juridiction a dit, c'est l'équivalent d'un sens électoral. On ne peut pas exiger que ces gens remboursent les frais de justice.
Donc la première juridiction de Floride.
Non. C'est une cour fédérale, puisque c'est une question constitutionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle le district court. A dit, on ne peut pas faire ça. Une cour d'appel, où il y a une majorité de républicains, a dit... Si, on peut le faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les Républicains, parallèlement, ont saisi la Cour suprême. Et la Cour suprême, par l'une de ces petites ordonnances dont je parlais tout à l'heure,
sous le radar, a dit...
Ah, si, on laisse la loi des Républicains en jeu, donc ce 1,5 million d'électeurs ne peut pas voter. Donc effectivement, l'initiative de Bloomberg, ça c'est très très bien, mais on parle de permettre à 50 ou 100 000 personnes de voter.
Bien sûr,
on est loin du million, mais c'est déjà mieux.
Denis Lacorne, on se souvient aussi, il y a plus de 4 ans, des erreurs absolument monumentales des instituts de sondage. Jusqu'en pleine nuit, donc il y avait les sondages, ce qu'on appellerait chez nous sortie des urnes. En pleine nuit, je me souviens que même Fox News, la chaîne favorite de Donald Trump, donnait Hillary Clinton gagnante, et puis le résultat s'est inversé. Est-ce qu'il y a dans cette campagne, de la part des instituts de sondage, des précautions qui ont été prises et de nouvelles mesures ?
Absolument. Deux précautions tout à fait importantes. La première, c'est que, évidemment, ils ont fait leur mea culpa, ils ont examiné pourquoi on a si mal prédit l'issue de l'élection. Et ils ont découvert que dans leur sondage, ils avaient oublié, parce que les sondages, il y a toujours une correction en fonction de tel et tel groupe démographique. Et ils ont constaté qu'ils avaient surreprésenté les gens qui avaient fait des études universitaires, compris dans l'électorat républicain. Donc c'était une erreur. Et aujourd'hui, donc, ils vont peser de façon un peu différente. Mais la deuxième précaution qui est prise, qui est intéressante, qui n'est pas très connue, c'est qu'ils ont décidé qu'il n'y aura pas de sondage de sortie des urnes. C'est trop coûteux. Mais il y a une espèce de consortium d'instituts de sondage qui vient de décider que désormais, on va faire un pre-poll, c'est-à-dire un sondage la veille ou le jour même de l'élection, uniquement dans les États décisifs, les États battleground. Et là,
alors,
on pourra
les États,
dire...
Ces États, il y en a une bonne dizaine, et en fait, il y en a 4-5.
Et on pourra dire le jour de l'élection, on aura une bonne idée pour dire qui a gagné dans tel et tel État. Ce qui est une façon de couper l'herbe sous le pied de Trump, parce que Trump, en disant « moi j'ai gagné le 3 novembre la Pennsylvanie », les instituts de sondage diront « ben non, nous on a fait un sondage de pré-vote et vous avez perdu par tant pour cent ». Donc c'est une procédure intéressante. Est-ce qu'elle sera plus rigoureuse que celle de 2016? C'est à voir. Mais c'est intéressant que les instituts de sondage, maintenant, pour des raisons de coût, ne font plus de sondages de sortie des urnes, et c'est des sondages par téléphone, donc très précis.
Alors, le sondage publié par Real Clear Politics, qui est donc l'un des instituts, oui, je crois, les plus crédibles, au niveau national, et il faut toujours rappeler, encore une fois, qu'aux États-Unis, ça a une valeur très relative, mais au niveau national, donc, cet institut donne 50,2% à Biden et 43,1% à Donald Trump. Néanmoins, Gérard Haut, le grand danger, et avec le tempérament de Trump et son sens, encore une fois, c'est un battleur de télé-réalité, donc il fait ça admirablement, c'est véritablement son premier talent. En fait, rien ne l'empêchera, pendant la nuit du 3 au 4 novembre, heure américaine, avec les 3 heures de décalage d'un bout à l'autre, de dire « j'ai gagné ». Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça va durer des semaines avant que les résultats soient dépouillés d'un état à l'autre.
Je vais d'abord revenir sur une remarque que M. Lacorne vient juste de faire, qui est très juste sur les sondages. Pourquoi ont-ils dû corriger en disant « nous avions prévu trop de gens avec une éducation supérieure ». Parce que la différence, une différence centrale entre les gens qui votent pour Trump et les gens qui votent pour Biden, c'est le niveau d'éducation. On n'a jamais eu dans une élection américaine une telle différence entre le blanc sans éducation supérieure vote à plus de 60-65% pour Trump, alors que celui qui a une éducation supérieure vote de la même manière pour Biden.
Avec néanmoins... Pardon, je vous interromps, Gérard. Avec le coronavirus, on voit une érosion du vote Trump chez les hommes blancs âgés.
Alors,
et encore plus chez les femmes.
Et alors, revenons sur cette affaire, parce que justement, le soir du 3 novembre, en réalité, je vais encore compliquer l'affaire. Parce que si, comme les sondages...
Vous n'avez pas été diplomate pour rien.
Voilà. Si, comme les sondages le prouvent, les démocrates votent beaucoup plus par correspondance, le 3 novembre, un certain nombre de bulletins les bulletins par correspondance ne seront pas encore dépouillés. Donc il n'est pas exclu que le 3 novembre soir, ce soit Trump qui soit le vainqueur. Alors, et qu'ensuite, dans les jours qui suivent, au fur et à mesure que l'on dépouille, on voit peu à peu apparaître et Biden élu 10 jours plus tard. Alors vous imaginez Trump, élu le 3 novembre, qui a toujours considéré que les bulletins par correspondance sont une fraude, se voir battu par les votes par correspondance, ça va être sportif.
Sportif et violent dans la rue, parce que évidemment,
il va jeter de l'huile sur le feu. Les milices d'extrême droite pullulent. On l'a vu au moment du
coronavirus. Non, et puis les démocrates, il n'y a pas non plus que des enfants de cœur.
J'allais le dire, l'extrême gauche aussi est chauffée à blanc. Mais on a vu aussi les milices au moment du coronavirus contre le confinement qui assiégeait le congrès du Michigan, par exemple. Donc on a tout. Et puis le fils de Trump qui appelle les milices, les volontaires, on a tous les éléments de trouble, peut-être violent, à partir du 3 novembre.
Alors j'ai reçu hier, dans les mails, étant toujours sur les listes des deux camps, un mail, vous savez, ces mails qui inondent les boîtes et qui vous demandent à chaque fois de l'argent. Et donc, l'un des derniers mails de campagne de Donald Trump était très intéressant parce qu'il demande à ce qu'on l'aide à préparer le débat télévisé de mardi prochain. Et donc, il demande à ses supporters, dit « Friend, j'ai besoin de ton apport, de tes idées ». Et alors, il liste un certain nombre de sujets. Et alors, les sujets, les priorités. Numéro 1, l'immigration. Numéro 2, l'économie. Et en tout dernier, la santé publique. En tout dernier, le système de santé. Donc, Denis Lacorne, mardi soir, sur Fox News, premier débat, premier duel, qui sera arbitré par un journaliste de Fox News, mais qui est tout à fait excellent, qui s'appelle Chris Wallace, qui est d'ailleurs à peu près le seul vrai journaliste à officier à Fox News. Pour ceux qui se souviennent de son père, Mike Wallace de 60 Minutes, ça évoquera des souvenirs. Néanmoins, ce duel, on dit souvent que les duels télévisés aux États-Unis, comme chez nous d'ailleurs, n'ont pas un tel impact sur le résultat de l'élection. Dans ce climat tellement singulier qu'on vient d'évoquer, est-ce que ce débat-là aura une résonance spécifique?
Je pense que non, parce qu'on avait d'abord dit que les conventions du Parti démocrate et du Parti républicain auraient un impact prodigieux sur l'opinion publique. Il n'y a pas eu vraiment d'effet visible. Et les débats, ce sera à peu près pareil, sauf s'il y a une bavure. Ça peut être Trump, ça peut être Biden aussi. Alors, faut jamais oublier
que ça peut surtout être Biden, parce qu'il a quand même une réputation.
Oui, mais Trump dit aussi tout et n'importe quoi. Donc ça.
Oui, avec cette différence que les électeurs de Biden lui en tiendraient rigueur, alors que les électeurs de Trump ne s'en préoccupent.
Biden est capable de faire preuve d'empathie, de parler de façon intelligente des gens malades et des morts, d'une façon que Trump est incapable de faire. Donc ça peut être un plus pour Biden. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le risque d'une gaffe. N'oublions pas Gerald Ford disant que, à l'époque, avant la chute du mur, que la Pologne n'avait jamais été sous influence soviétique. Ça avait été très très mal jugé, évidemment. Mais Trump peut très bien dire le même genre de bêtises. Donc, à mon avis, ça risque d'être un match nul. Mais il y aura de toute manière, en principe, deux autres débats. Mais ça sera presque trop tard, puisque les gens votant par correspondance sont déjà en train de voter.
Oui. Il nous reste quelques minutes. Sur ces débats. Oui. On se souvient, le tout premier, c'était Nixon-Kennedy. Oui. C'était en 1960. Richard Nixon transpire.
Il était pas rasé.
Le producteur de ce duel télévisé, Don Hewitt, favorisait manifestement Kennedy et donc a épongé le front de Kennedy de telle manière que Nixon, qui était beaucoup moins télégénique aussi, il faut bien le rappeler, avait l'air véritablement du méchant dans l'affaire. Néanmoins, Gérard Araud, Joe Biden aura face à lui une brute. Un battleur.
Je suis peut-être moins optimiste,
Menteur.
Parce que vous allez avoir, d'abord, il y a une question centrale que les Républicains ont mise sur la table, c'est de dire la sénilité supposée de Biden.
Oui. Donc, il sait même pas qu'il est en vie, il peut pas aligner deux phrases à la suite.
Et tous les spots ignobles, parce qu'ils truquent les images, montrent, il faut bien dire, un Biden quasiment sénile. Que va faire Biden face à cette brute épaisse? Parce que qu'ils disent des mensonges, Trump, tout le monde a l'habitude. Au fond, Trump, ça me fait beaucoup
penser.
Bon, ça me fait penser totalement avec ce qu'avait le problème qu'avaient les politiciens français face à Jean-Marie Le Pen. Il est très difficile face à quelqu'un qui assène des énormités, qui ne respecte pas les règles, les usages et la politesse. Il est très difficile d'avoir un débat. Et donc, que va pouvoir faire Biden? Et d'ailleurs, dans l'équipe de Biden, moi je connais bien, il y a eu tout un argument, toute une discussion sur le thème « ne faisons pas de débat avec ce type ».
Voyez, chacun dans son coin.
Chacun, parce que c'est impossible d'avoir un débat.
Mais ça aurait été très mal pris.
Sans doute, c'est pour ça qu'ils ont décidé de... Oui. Vous savez, moi j'ai assisté à des entretiens entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Il est impossible d'avoir une conversation avec ce type. Il répète des phrases,
mais on se souvient, Gérard Haut, que vous vous étiez d'ailleurs exprimé sur Twitter avec une certaine franchise à ce sujet, ce qui avait mis le Quai d'Orsay en émoi. À l'époque,
C'est pas difficile de le mettre en émoi, il faut bien dire.
C'était un peu dur quand même.
Anne Desine, si vous aviez un conseil à donner aux deux protagonistes, mais surtout à Biden, qui encore une fois sera à tous égards en position en fait de challenger dans ce débat. Alors avec des règles très strictes, il y aura un certain nombre de questions, 2 minutes chacun, avec une histoire de plan de coupe, mais enfin ça c'est vrai dans tous les duels télévisés aussi chez nous, donc des principes de réalisation du visuel du débat très précis. Quel conseil donneriez-vous à Donald Trump d'abord et à Joe Biden ensuite?
Alors je suis moi aussi très inquiète parce que c'est très difficile d'avoir Trump. Il faut se rappeler qu'il a détruit tous les candidats républicains et pas tous des imbéciles aux primaires il y a 4 ans.
Et ils étaient 15.
Oui, si j'étais Biden, je répondrais à chaque horreur en disant bon ceci est un mensonge et ensuite je dirais mon message sur la protection sociale, sur la santé, sur l'économie, etc. En essayant de pas me laisser déstabiliser par cet individu. Du Trump, il n'a pas besoin de conseils, il va insulter, il va dire tout un tas de choses. Mais il faut aussi voir que le débat, non seulement ne touchera pas ceux qui ont déjà voté, mais de toute façon, le débat, il ne peut faire bouger qu'une infime fraction de l'électorat, peut-être 5%, puisqu'il y a déjà 45% qui va voter, qui va voter contre Trump et qui va voter Biden, et ceux qui vont voter Trump. Donc là, on est en train de faire bouger une toute petite... Mais cela étant, ça donne une bonne idée de ce qu'est capable de faire Biden.
Denis Lacorne, s'agissant de l'électorat de Biden, qui est un électorat composite, on se souvient que la gauche, les jeunes, voulaient Sanders. Biden, il le considère comme un centriste, pépère, un vieux monsieur. Et Kamala Harris, qui est la très remarquable sénatrice de Californie, ancienne procureure, est aussi une centriste. Donc, par rapport à cela... Quel peut être, en quelques mots, nous approchons de la fin de cette discussion, quelle peut être la tactique de Biden vis-à-vis de son propre camp?
Dans un camp comme dans l'autre, on veut le maximum de participation électorale, on ne veut pas d'abstentionnistes. Alors la force de Biden, c'est qu'il n'y a pas de troisième parti vraiment visible comme les Verts, et il peut compter sur... ceux qui avaient préféré Sanders en 2016, parce que la mort de Ruth Bader Ginsburg a beaucoup stimulé la gauche du Parti démocrate, qui estime qu'elle va perdre beaucoup avec une Cour suprême très très à droite, et elle va se mobiliser, probablement voter pour Biden, alors que dans un autre contexte, elle se serait peut-être abstenue.
Eh bien, en tout cas, merci à tous les trois pour cette discussion passionnée et passionnante. Je ne résiste pas à mentionner quand même l'existence aux États-Unis, et c'est pour ça qu'on aime l'Amérique, d'un certain médecin qui s'appelle le docteur Stosny, qui est un thérapeute spécialisé dans la thérapie des couples. Et il se spécialise maintenant dans ce que le New York Times appelle le « election stress disorder ». Donc, si... véritablement la pression psychologique, la tension de cette élection vous préoccupe, vous pouvez vous adresser à ce médecin. Merci donc Anne Desine. Je rappelle que vous avez publié Les États-Unis et la démocratie aux éditions de l'Harmattan l'an dernier. Denis Lacorne, auteur notamment du rêve français de la Silicon Valley chez Fayard l'an dernier. Et Gérard Haut, un excellent livre Passeport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay chez Grasset l'an dernier. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige, Hugo Borsier a préparé bien sûr cette émission comme chaque semaine. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.